Alors, je me présente, je m'appelle Montfort Patrick, je suis le président de l'association AFNV. Tout un parcours professionnel, bien avant cette association, puisque j'ai créé Fréquence Pas-de-Calais dans les années 80, une radio qui allait devenir numéro un dans le Pas-de-Calais, malgré moi. Il m'a fallu beaucoup de temps, beaucoup d'investissement aussi, mais ce qui n'est pas facile, c'est l'administratif en France, et ça, c'est terrible.
Donc la radio, c'est ta passion. Au départ, qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce média? Qu'est-ce qui t'a mobilisé? Qu'est-ce qui a créé peut-être de l'adrénaline en toi?
J'avais 10 ans quand j'allais à l'école. J'étais un petit peu interloqué d'avoir dans une petite boîte, ce qu'on appelle avec une antenne, qui sortit une antenne. Et je disais tout le temps, mais comment ça se fait que cette boîte, on entend de la musique et des personnes qui... Voilà, j'étais interloqué. À 10 ans déjà, je me posais la question. Et plus tard, je me suis dit, il faut que j'arrive à approfondir la question, quoi. C'est pas normal. Et en fin de compte, avec, on va dire, mon obstination pour essayer de savoir ce qui se passait, parce que je suis assez curieux de nature, moi, eh bien, j'ai vu que tout simplement, derrière cette boîte, il y avait des gens qui travaillaient, des animateurs, des techniciens, des journalistes, des rédacteurs en chef, donc pour pouvoir faire des émissions de qualité, tout simplement. Voilà.
Il y a eu une époque où on entendait beaucoup les radios pirates. Est-ce que tu as connu ce moment très particulier et à quelle époque tu as pu en profiter vraiment?
L'époque où j'ai connu les radios pirates, c'était l'époque François Mitterrand. Chacun y allait de sa petite sauce, quoi. C'était la radio de maman, de papa. Chacun y allait avec son petit émetteur, etc., etc. Grâce à ce grand monsieur, eh bien, j'ai commencé à avoir la fibre pour m'intéresser justement à créer une radio. Mais quand on dit créer une radio, il faut de l'investissement. Il faut des moyens, il faut des idées. J'ai eu la chance de connaître quelqu'un qui s'appelait Bernard Blatzik, qui n'est plus de ce monde malheureusement, et qui avait fondé une radio, dont je tairai le nom, puisque c'est assez personnel. Et le jour où il a arrêté d'émettre, voilà, donc il m'a fait cadeau de son matériel. C'est-à-dire que j'ai eu l'émetteur, j'ai eu l'amplificateur, j'ai eu tout ce qui concerne la diffusion d'une station de radio. Et un jour, il m'a dit, tu as de l'or entre tes mains, Patrick. Mais fais attention, fais très attention. Voilà.
Alors, si on se rappelle bien de l'époque, donc avant 81, les radios étaient, on va dire, interdites, les radios qu'on appelait les radios libres. Hein. Et puis en 81, elles ont été autorisées à condition de ne pas faire de publicité. Ça a été comme ça jusqu'en 83. Et qu'il y a eu un temps où beaucoup, beaucoup de radios existaient, mais qu'il y a eu un tri qui a été fait par l'autorité de l'époque.
Tout à fait. J'étais un petit peu interloqué dans tout ça parce que je me disais, voilà, il faut savoir que maintenant, quand on crée une radio, ça ne se fait pas comme ça. Hein. Voilà, il faut beaucoup d'administratifs. L'administratif, on sait trop dire ce que c'est en France. Et on va dire que Michel Cotta, qui était alors journaliste, a été bombardé présidente de la CNCL, quoi. Donc, je ne voudrais pas mettre le feu aux poudres, mais c'est ce qui a généré beaucoup de mécontentement dans tout ce qui est syndicat des radios libres, puisque certaines radios avaient leur fréquence et d'autres non.
Alors, pour rappeler le contexte, il y avait beaucoup, beaucoup d'émetteurs dans la région Hauts-de-France. Hein. C'est une région où on aimait bien la radio et beaucoup s'essayaient à la radio. Donc, une certaine forme de concurrence, on peut dire un peu de pagaille aussi, parce qu'il y avait des radios qui émettaient plus puissamment que d'autres, qui chevauchaient les fréquences des autres. Et tout ça crée un climat de tension, pas de guerre, mais bon, de
Non.
tension.
Oui, c'était plutôt de tension. Mais quand on est passionné comme moi, on y allait franchement, quoi. Moi, j'aurais jamais cru arriver à ce point-là de devenir l'une des plus grosses radios dans les années 80. Tout le monde écoutait Fréquence Pas-de-Calais. C'était le boom des radios, quoi. On avait quoi? On avait une petite table du mixage, on avait deux platines disques, on avait une platine CD, une platine cassette à l'époque, hein, voilà quoi. Et jamais j'aurais cru arriver à ce point-là à devenir l'une des radios numéro un dans le Pas-de-Calais. Je me rappelle quand on a commencé à émettre et que j'ai eu la chance d'avoir Télédiffusion de France qui est venue chez moi m'attribuer ma fréquence provisoire, puisqu'on a une fréquence provisoire ensuite. Hein, et par la suite, la fréquence définitive arrive par la suite, bien sûr, avec beaucoup de difficultés, puisque l'administratif, ce n'est pas facile. Donc, il fallait prouver qu'on était quand même capable de promouvoir diverses activités culturelles et sociales. Et Fréquence Pas-de-Calais rentrait dans le domaine là, tout à fait, ouais.
Donc à cette époque, il y avait, ben, je me souviens de noms, je vais te donner des noms comme ça, par un Radio-Ciel à Loison, il y avait Nuance 4 à Liévin, après à Lens, il y a une radio aussi. Donc certaines étaient plutôt épaulées par les municipalités, et d'autres un peu à l'écart. Et évidemment, entre celles qui sont aidées et financées par les municipalités et celles qui sont en solo, il peut y avoir un gap et après des difficultés pour exister.
Le problème, c'est que nous n'avions aucune aide de nulle part. Il fallait se débrouiller par nos propres moyens. Donc, nos propres moyens, c'était le système débrouille, comme l'on dit. On faisait de la publicité à l'époque. On allait voir les commerçants pour leur proposer éventuellement eh bien, un peu de publicité, ce qui nous permettait, nous, de vivre un petit peu. Je vous avouerai franchement que j'y mettais un peu plus de ma poche, voilà, parce que c'était très, très, très difficile. Malgré la concurrence, bien sûr, qui régnait à l'époque. Parce que c'est vrai que le boom des radios à l'époque, des années 80, c'était monumental, quoi. Voilà.
Donc, il y a des radios, même associatives, hein, qui étaient pseudo-associatives et qui ont fait du business. Enfin, j'en connais sur l'île notamment, hein, et qui ont arrêté, qui ont été finalement suspendues ou même arrêtées par les autorités de l'époque, qui jugeaient leur projet pas très intéressant en termes de contenu et peut-être plus commercial qu'associative. Donc pour rappeler l'histoire, en 83, il y a eu des grosses manifestations de radio comme Énergie, etc., et qui ont demandé à leurs auditeurs hein, de manifester fortement pour qu'elles soient autorisées à ne plus avoir un format associatif, mais pouvoir faire de la publicité, voilà, et devenir des radios de réseau. Donc ça, c'est une partie du panorama encore actuel, hein, les radios de réseau. Les radios indépendantes commerciales, il y en a aussi. Et puis, il y a les radios associatives. Trouver le bon format, la bonne structuration pour exister en tant que radio, c'est pas forcément très simple. Moi, j'ai vu des radios associatives qui sont passées aux radios commerciales parce que leur projet, il fallait plus de pubs que prévu et ils n'avaient pas assez de bénévoles. Donc, tout ça, c'est pas facile. Ça, au fil du temps, le projet se définit dans une sorte de réalité. Le réalisme, ça devient important.
Le problème, oui, parce qu'il faut savoir qu'une radio associative, elle ne vit qu'avec les dons des gens qui veulent bien verser annuellement ou mensuellement, tout simplement. Mais oui, c'est très compliqué. Vivre associativement, c'est très compliqué. Je suis tout à fait d'accord avec vous, René. En plus, une radio commerciale, ben bien sûr, une radio commerciale, on va prendre des radios commerciales comme Chérie FM, comme Nostalgie, comme Énergie, ont beaucoup plus de moyens qu'une radio associative. Donc c'est vraiment plus compliqué qu'on le croit, tout à fait. Ouais.
Donc, elles ont plus de moyens. En même temps, il n'est pas dit qu'elles aient un équilibre financier. Je vais expliquer un petit peu. En fait, les radios associatives, elles sont obligées d'avoir un équilibre financier ou bien elles s'arrêtent. Hein. Mais les radios de réseau, elles font partie de groupes. Et ces groupes, ce sont des groupes audiovisuels. Donc, ce qui ne marche pas d'un côté, ça peut être financé par l'autre secteur qui va renflouer les caisses, on va dire. Et donc, ça crée une sorte, je ne vais pas dire d'inégalité, mais de double traitement des projets radiophoniques, à la fois dans l'acceptation des projets pour avoir des fréquences et aussi pour les récupérer encore après, puisque tous les, on va dire, 5 ans ou 7 ans, ou voilà, 15 ans, il faut complètement remettre la fréquence en jeu. Et entre deux, c'est, on va dire, une période où le projet est réévalué par les autorités compétentes. Et donc, ce maintien dans la durée, c'est un vrai problème.
Le problème, il n'est pas seulement financier, le problème, il est surtout humain. Une personne qui est dans l'associatif passe quand même sa vie dans l'association. Donc, ça crée aussi des conflits familiaux. Moi, je me rappelle, puisque j'étais quand même marié, je faisais de la radio, ma femme, quelquefois, mon ex-femme, pardon, puisque je ne suis plus avec actuellement, elle faisait des bons, quoi. Je veux dire, elle se posait des questions. Moi, tu vas encore animer une émission, mais où vas-tu? Qu'est-ce que tu fais? Patati, patata. C'était très compliqué. Si j'aurais été payé, oui, bien sûr. Si je l'aurais fait professionnellement, bien sûr, ça aurait été moins compliqué. Mais là, je partais, par exemple, à 8 heures du soir. Je revenais, il était presque minuit, 1 heure du matin. Ça se posait quand même des sacrées questions, quoi. Donc, le problème est là, quoi.
Donc, on va dire que dans cette passion, il y a une part de sacrifice, alors pour soi-même, mais aussi pour la famille, d'une certaine manière.
Le sacrifice, oui. Quand on est une femme assez complaisante, ça va. Mais quand on a une femme qui a été jalouse comme la mienne, c'était un peu plus compliqué. Et vis-à-vis des enfants, c'était encore plus compliqué. Donc, avoir la fibre radiophonique, oui, mais à un certain point, non. Je pense qu'il arrive... Il arrive quelquefois que la femme qui a eu pendant, on va dire, une vingtaine d'années la chance d'être avec un mari qui se consacre uniquement à la radio, je pense qu'au bout d'un certain moment, elle a un petit peu ras-le-bol, on va lui dire. Voilà, c'est le terme exact. Je pense que pour... moi, personnellement, je pense pour faire ce métier, il faut être célibataire. À mon avis, hein, ça n'engage que moi. Mais moi, je vous avouerai franchement, René, quand je rentrais à la maison, j'avais fait une émission de 8 heures en bénévole, je tiens à le préciser. J'en prenais plein mon grade. Ça, c'est sûr et certain. Ah oui, ça, c'est sûr.
Alors, c'est vrai que la radio, c'est un peu comme ça, hein, mais il y a d'autres... on va dire passion, on a le même engagement. Hein. Là, on parle de ce qu'on connaît, hein, Patrick.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, René. Mais c'est vrai que moi, quand on est passionné, on est passionné. J'adore mon métier, moi. Voilà, j'ai débuté à 10 ans, je parlais dans un micro, c'était incroyable. Jamais j'aurais cru que j'aurais eu cette fibre. Vraiment, j'allais devenir, on va dire, semi-professionnel et professionnel plus tard. J'avais aussi la chance de partir. Je me souviendrai tout le temps des paroles que mon ex-femme m'a dit quand je lui ai dit « Chérie, voilà, tu sais, j'ai arrêté Fréquence Pas-de-Calais et tout ça, donc tu sais qui je suis. » Elle m'a fait « Oui, je sais qui tu es, mais est-ce que tu sais qui je suis aussi, moi ?» Je lui ai dit « Oui, tu es ma femme. » Donc, il y a toujours une espèce d'osmose entre le mari et la femme. Donc voilà, j'avais la chance de partir sur Paris pour en faire mon métier. Il a fallu choisir entre mon métier et ma vie de famille. Donc elle ne m'a pas beaucoup laissé le choix. Donc je me suis dit, oula, ça pue un peu le roussi. On va un petit peu se calmer, on va mettre un peu ce passant de côté, on va se consacrer plutôt à sa vie de famille pour l'instant. Tout à fait.
Voilà, donc la réussite des radios... Pour les gens qui la réalisent, c'est pas vraiment facile pour eux aussi dans leur vie. Et comme je disais, la notion de sacrifice, d'engagement, de responsabilité, parce qu'il y a de vraies responsabilités quand on gère une radio.
Beaucoup de responsabilités, énormes responsabilités. Moi, je me rappelle quand j'étais président de Fréquence Pas-de-Calais, beaucoup de gens me demandaient « Est-ce que c'est facile d'être président d'une station de radio locale comme la vôtre ?» Non, c'est pas facile. Mais non, c'est pas facile. Vis-à-vis de la jalousie des gens, premièrement, puisque voilà, j'ai eu beaucoup de jalousie. Vis-à-vis des critiques aussi. Parce que voilà, on était quand même devenu presque numéro un dans le Pas-de-Calais. Et le souci, c'est que voilà, on engendrait beaucoup de critiques, on engendrait beaucoup de jalousie, beaucoup de concurrence. Certains animateurs de certaines radios locales dont je tairai le nom voulaient venir travailler chez moi, mais je ne pouvais pas me permettre de faire ça. C'était impossible. Vis-à-vis de ma famille, c'était encore plus compliqué, puisque ma famille n'admettait pas du tout le projet que j'allais entreprendre, ou créer une radio locale. Mais on me disait, mais t'es tombé sur la tête ou quoi? On me disait carrément, excusez-moi du terme, T'as fumé la moquette ou quoi? Et non, pas du tout. J'avais ce projet-là en tête. J'avais déjà la fibre radiophonique. Et puis c'est comme ça. Mais c'est très compliqué au niveau familial, au niveau privé, au niveau. C'est une dinguerie, c'est incroyable, c'est vrai.
C'est évidemment très compliqué. Qu'est-ce qui fait tenir? C'est l'adrénaline, le plaisir, l'équipe qui soutient?
Je voudrais vous raconter une histoire, René, qui n'engage que moi, bien sûr. Voilà. L'équipe, surtout. Quand on est une bonne équipe, quand on est soudé, c'est le meilleur des fers de lance, je veux dire. Donc, voilà. J'avais eu l'occasion un jour de faire un reportage au Touquet. Et donc, on était parti au Touquet à faire ce reportage. Et personnellement, je me rappelle d'une histoire où j'avais dit à mon équipe, voilà, j'étais complètement fatigué. Hein, faire un reportage, c'est très fatigant, en plus avec l'air de la mer. Alors là, c'était même plus que terrible. J'avais dit à mon équipe, je leur avais dit, écoutez, les gars, je suis fatigué, voilà, on n'en peut plus, on a fait un reportage, ça s'est très bien passé, un direct formidable. Est-ce qu'éventuellement, vous me permettez de faire quelques sommes? J'ai fait un somme. Mais le souci, c'est que ce somme m'a permis de me retrouver à Hasbrouck. En fin de compte, mon équipe devait me réveiller à la gare de Lens et je me suis retrouvé à la gare d'Hasbrouck. Terminus, terminus, alors c'est assez risible dans l'ensemble, on va dire, hein. L'air de la mer, j'étais complètement claqué, excusez-moi du terme, j'étais fatigué, j'avais fait un reportage qui s'était très bien passé, même à l'antenne c'était très bien passé, beaucoup d'auditeurs étaient à l'écoute, c'était génial. Mais le problème quand vous faites un reportage, avec l'air de la mer, ça vous casse beaucoup. Donc je m'étais endormi, j'avais dit à mon équipe, surtout vous me réveillez bien sûr à la gare de Lens, oui. Mais quand j'ai eu l'impression qu'on se foutait un petit peu de moi, on va dire, en fin de compte, c'était ni plus ni moins qu'un gag, hein, voilà, on avait voulu me faire un gag qui n'a pas été très bien reçu de ma part, on va dire. Donc, je me suis retrouvé à la gare d'Hasbrouck. Et puis, à la gare d'Hasbrouck, quand j'étais complètement crevé, excusez-moi du terme, j'ai eu le contrôleur qui m'a secoué, hein, l'épaule, et je me réveille, je fais, ça y est, on est arrivé. Il a fait, non, monsieur, oui, c'est arrivé. Et je suis, nous sommes arrivés en gare de Lens. Ah, il fait non, monsieur, vous êtes à la gare d'Hasbrouck. Stupéfaction. Je dis, comment ça, je suis à la gare d'Hasbrouck, c'est pas possible. Il fait, ben si, monsieur. Et en fait, compte, ben, c'est le terminus ici. Alors, donc, à 3 h du matin, j'étais à tâtons en train de chercher une pièce pour essayer d'appeler mon frère, une cabine téléphonique. Hein. À l'époque, on n'avait pas la chance d'avoir un portable. Hein. Donc, en cabine téléphonique, et je me souviens, j'étais dans le noir et j'avais à l'époque 1 franc. Ce franc m'a sauvé la vie, René, puisqu'il m'a permis quand même de téléphoner à mon frère, qui était bien sûr à l'époque à Loison-sous-Lens. Imaginez un peu les kilomètres, Loison-sous-Lens, Hasbrouck, presque à côté de la frontière belge, n'est-ce pas? Donc, je téléphone à mon frère, qui était d'ailleurs plutôt de mauvaise humeur, on va le comprendre, hein, parce que se retrouver à la gare d'Hasbrouck, et puis alors qu'on devait arriver à Lens, alors que mon équipe était arrivée dans les studios de la radio, donc tout fringant, pas de problème. Donc on continue cette péripétie, donc je le réveille, bien malgré moi, en lui expliquant les péripéties qui m'étaient arrivées, et il m'avait expliqué, oui, mais enfin, le problème, Patrick, tu es à Hasbrouck, mais ton équipe est arrivée à Loison. Et je suis, oui, et comment on fait? Ben, il fait, excuse-moi, mais il va falloir que tu te débrouilles par tes propres moyens. Et je lui dis, mais je vais quand même pas revenir à vélo, j'ai pas de vélo, j'ai rien. Alors j'ai réveillé mon frère à 3 h du matin qui le lendemain travaillait. Et le souci, quand on réveille une personne à 3 h du matin pour venir chercher son frère qui se retrouve à presque à, n'est-ce pas, plusieurs kilomètres de ça, presque à côté de la Belgique, je peux vous assurer, René, que j'ai pas passé une très 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 bonne nuit. En rentrant chez moi, j'avais mon équipe, d'ailleurs, qui était là, voilà, hein, et puis qui rigolait, vous voyez, hein, donc tout le monde rigolait, on était presque une quinzaine d'animateurs à l'époque, hein, tout le monde se marrait bien, oui, le président, oh, il a fait une rien, hein, on lui a fait une farce, ah oui, on lui a fait une farce, tout à fait. Donc moi, j'ai ouvert la porte et j'ai découvert la personne qui m'avait fait ça. J'ai plus ou moins apprécié la blague. Donc cette personne a été mise à pied une semaine. Je sais, c'est un peu beaucoup, mais pour moi, je vous avoue que ça fait du bien. Donc, voilà. Et se retrouver à Hasbrouck, alors qu'on demande à un de ses animateurs, tu me réveilles, s'il te plaît. Oui, monsieur le président. On vous réveille, oui. Donc, voilà, certaines péripéties comme ça, vous voyez, René, donc, c'est pas facile du tout. Et surtout, familialement, je vous assure que mon frère l'a très, très mal pris.
Voilà donc des péripéties, hein, mais c'est vrai que quand on fait de la radio, il y a plein d'aventures. Il n'y a pas que des choses problématiques, il y a des moments de bonheur.
Beaucoup de moments de bonheur, des moments insoupçonnés. Moi, j'avais l'occasion d'être avec mon équipe quand je partais en reportage, c'était formidable, formidable. Et puis, des moments où, quelquefois, ben, dans une équipe, quelquefois, il y a toujours des divergences. Hein, donc, voilà, c'est pas facile. Mais ben, c'était des moments magnifiques, quoi. Des moments magnifiques. Et j'oublierai jamais ces moments. Jusqu'au jour où, malheureusement, j'ai vécu l'un des mauvais moments de ma vie, quoi. J'aurais jamais cru que cela pouvait arriver, me limoger de la bande FM, alors que je n'avais rien fait du tout, quoi. Donc, j'ai été pris dans un engrenage où, malheureusement, je ne peux pas expliquer, bien sûr, c'est un peu compliqué. Se retrouver au tribunal ou se retrouver dans un poste de police, les menottes aux mains, alors qu'on n'a rien fait, et voilà, on se pose des questions. Et malheureusement, voilà, j'ai été pris dans un engrenage, on va dire, judiciaire et plutôt macabre, puisque avec mon avocat, ben, j'ai su tout simplement qu'on m'avait limogé parce que j'étais devenu trop important, tout simplement. Voilà.
Voilà, donc bah, les radios ont des vies, des morts. Globalement, il en reste quelques-unes. Donc,
Oui.
qu'est-ce que tu penses de ce qui existe actuellement sur, alors, on va dire la bande FM, on peut parler aussi du DAB, voire même de l'Internet, des podcasts, etc. C'est, on va dire, très très large maintenant le choix des auditeurs, la forme aussi des supports. La radio a beaucoup évolué, en fait.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, René, mais moi, je reste sur ce qui est. Je suis ancien, comment dire, présentateur, ancien animateur, ancien président aussi d'une des radios les plus importantes. Et moi, pour moi, le DAB, c'est bien, mais c'est du numérique. C'est pas ma tasse de thé, le numérique. Comme j'expliquais une fois à quelqu'un qui me demandait mon avis, je lui ai dit, excuse-moi, mais le DAB, j'y crois pas beaucoup. C'est de la poudre aux yeux pour moi. C'est de la poudre aux yeux d'un gouvernement qui veut essayer d'instaurer une nouvelle forme d'outil. Moi, je pars d'un principe, on ne pourra jamais détrôner la FM. Jamais. Jamais. Personnellement, non. Je n'y vois pas beaucoup d'intérêt. Par contre, la web radio, j'y vois un grand intérêt puisque la web radio, on va savoir que la web radio, donc il ne faut pas de fréquence, il ne faut rien du tout de tout cela. En plus, administrativement, c'est moins compliqué de créer une web radio, puisqu'il faut savoir que quand on crée une radio locale, il faut beaucoup de papiers, il faut envoyer tout ça à la CNCL, etc., etc., qui malheureusement, voilà, c'est pas toujours la réponse que l'on attend. Et donc, pour moi, l'avenir, c'est la web radio. Mais le DAB, j'y crois pas beaucoup. Je suis désolé, hein.
Voilà, donc la web radio, ben c'est vrai que ça s'est bien démocratisé. On peut maintenant faire facilement des web radios. Il y a des web radios en milieu scolaire, il y a un peu partout. Et donc c'est aussi une façon de ne plus ancrer localement une radio, c'est-à-dire qu'elle peut être partout dans le monde et émettre, enfin je veux dire émettre, c'est d'avoir un studio quelque part qui envoie du son et après c'est écouté sur le web partout.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, René. Oui. Pour moi, la web radio, c'est l'avenir. L'avenir.
Alors justement, le côté un peu radio locale où on présente à des gens qu'on a un peu identifiés dans un périmètre de l'actualité, qui sont en rapport avec leur réalité. Quand on passe à une dimension internationale, hein, on va dire ça comme ça, avec les web radios, est-ce qu'il n'y a pas le risque de se diluer, de perdre un peu le sens de ce qu'on fait?
Moi, je pense pas, non. Pas pour moi, non. Je pense que la web radio, bah, c'est un outil formidable. Que l'on soit en web radio ou tout simplement que l'on soit en FM ou en local, non. Pour moi, l'animateur qui fait son émission peut très bien la faire en local, en professionnel, même en web radio. Non, je vois pas. Non, pour moi, il n'y a pas d'obstacle. Je pense pas. Non.
Donc on voit bien aussi les télévisions sur les web, hein, le web maintenant, et certaines arrivent à vivre, mais il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a qui arrivent économiquement à se développer, trouver des personnes qui financent, voilà. En radio, les web radios, je ne sais pas si économiquement il y en a qui sont réellement des radios professionnelles, hein, viables, je ne sais pas si ça existe.
Mais j'ai entendu récemment sur une radio dite professionnelle qu'un DJ avait lancé sa web radio. Un DJ, c'est quand même incroyable. Sans le nommer, David Guetta a lancé sa web radio. Donc c'est quand même un outil quand même, qui est quand même formidable. Je pense que s'il a lancé sa web radio, il a ses raisons. Ses raisons, elles sont bien sûr professionnelles, ça c'est sûr et certain, mais moi, je pense qu'administrativement, c'est moins compliqué de créer une web radio qu'une radio dite FM. Voilà, dans l'ensemble, pour moi, c'est l'un des outils les plus formidables que l'on ait inventé, tout simplement. Ouais.
C'est vrai aussi que avec le temps qui passe, il y a des évolutions technologiques qui sont extraordinaires et que faire de la radio, au-delà de la conception des émissions, c'est de plus en plus facile grâce à justement ces logiciels, ces outils, ces super tables de mixage qui à l'époque qu'on a connues, hein, c'était vraiment très rudimentaire et il fallait vraiment se casser la tête.
C'est vrai que le bond en avant, on va dire, il a été formidable. J'ai connu, moi, par exemple, la cassette. Comme vous, René, vous avez connu la cassette. Comment caler une cassette? Ben, on prend la cassette, on prend son doigt et on tourne, comme on dit. On prend, disons, un crayon et on tourne autour des petites dents. Comment caler un disque? Caler un disque, eh bien, on prend le disque, on la met en pré-écoute et on cale le disque. Mais le numérique, c'est vrai, a fait un bond en avant qui a permis tout simplement à celui qui s'en. C'est beaucoup plus simple, on va dire, beaucoup plus simple. Mais le numérique a aussi ses inconvénients. Quelquefois, quand on met un CD, bah, ça saute. Bah, le CD saute. Ce qu'on appelle le CD saute, bah, c'est tout simplement qu'il d'une plage à une autre, il va sauter. Voilà. Ce qui peut arriver aussi avec le disque vinyle, bien sûr.
Mais pas avec le MP3, en général, il saute pas.
Ah non, le MP3 c'est formidable puisque le MP3 ça permet quand même d'engendrer plus de 800 titres sur une clé USB, c'est incroyable. Quand j'ai su que sur une clé USB, alors que je suis de l'ancienne génération moi, hein, tout simplement, on pouvait mettre 800 titres, j'étais interloqué, c'est incroyable. 800 titres sur une petite clé USB quoi, qui fait même pas 20 cm quoi. Le bond en avant était formidable, on va dire. Ah oui, tout à fait, oui.
Voilà, donc on va dire que chaque génération bénéficie des évolutions technologiques. Après, reste le projet qu'elles peuvent mener à partir de tous ces outils à disposition. Et puis, quand on parle de projet, ben, comme on l'a dit un peu tout à l'heure, monter une équipe, travailler sur une idée, un idéal, voire une idéologie, c'est l'avenir?
Oui, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Actuellement, ici, quand j'ai arrêté Fréquence Pas-de-Calais, je ne me suis pas arrêté là. Je me suis dit non, il faut que l'on rebondisse, pardon, et puis qu'on puisse faire autre chose. J'ai un ami qui est voyant. Bon, voilà, je ne crois pas beaucoup à toutes ces choses-là. Et un jour, il m'a dit, tu vas recréer quelque chose. Je dis, c'est pas possible, j'y crois pas beaucoup. Eh bien, il m'a dit, si, si, tu vas recréer quelque chose et ça va marcher. Et en fin de compte, oui, ben oui, en fin de compte, je m'aperçois qu'il avait entièrement raison. Il m'avait dit, tu vas recréer quelque chose, ça ne sera pas de la radio. Je dis, ah bon, je comprends pas, comment ça ne sera pas de la radio? Il fait non, ça sera quelque chose d'un peu plus compliqué, en fin de compte, mais tu vas le faire. Et en fin de compte, oui, tout à fait, puisque ce qui se passe, c'est que la FMB, l'Association des formations des métiers audiovisuels, c'est une association, mais ce n'est pas seulement une association, c'est aussi une école de formation sur les métiers audiovisuels. Tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai acquis, tout le savoir que j'ai acquis, j'ai envie de le transmettre. De le transmettre à des générations où on va dire que le numérique, bien sûr, a détrôné le pas sur les platines disques, sur les cassettes, mais il ne faut pas oublier quand même qu'il y a eu la génération d'avant. Et c'est cette génération d'avant. Tout ce savoir que j'ai envie de transmettre. Voilà, tout simplement. Voilà.
Donc, Des projets, on peut en avoir tout le long de sa vie. Certains sont plus motivants que d'autres, d'autres plus réussis que d'autres. Bah, c'est la vie, en fait.
Oui, c'est la vie. Je vous avouerai franchement, René, j'ai 60 ans. Je mange la vie à pleines dents. Voilà, j'adore, j'adore, j'adore. J'ai la chance d'être en bonne santé, ce qui est pour moi une des valeurs les plus importantes au monde. Je ne suis pas quelqu'un de matériel, j'horreur de ça d'ailleurs. Pour moi, le matérialisme, je m'en fous un peu, hein, comme on va dire. Je suis quelqu'un de simple. Je suis un peu comme Balavoine, moi. Vous savez, René, quand il disait beaucoup de choses, quand il disait tout haut ce que les gens pensaient tout bas. Je suis un peu ce genre-là. Grande gueule, c'est vrai, avec un cœur énorme, mais avec des idées bien préconçues et bien définies. Voilà.
Donc voilà, hommage bien sûr à Daniel Balavoine et puis à ses idées peut-être pour certains qu'on peut partager, hein, et aussi à des passions, des métiers passions où il faut à la fois des passions et du talent, et ça, c'est la réussite.
Oui, tout à fait. Mais le problème, quand il ne suffit pas d'avoir du talent et de la réussite, il faut de l'argent, René. Donc c'est encore plus compliqué. Justement, c'est vrai que moi, quand j'ai créé ma station de radio, je n'avais rien du tout. J'étais loin de me douter de ce qui allait arriver, quoi. Donc, comme je dis, l'argent ne suffit pas. Comme on dit, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue, c'est ce que l'on dit. Il y contribue grandement quand on a un projet de grande importance. Il y a aussi les dossiers de subvention. Les subventions qui nous permettent, nous, membres associatifs ou présidents de l'association, d'avoir un projet en cours qui nous permet, eh bien, tout simplement d'aboutir à nos fins, quoi. Et c'est très important. Là, l'argent ne fait pas le bonheur, mais pour moi, il y contribue. Je suis tout à fait d'accord.
Voilà, donc cette association, on peut redire son nom, peut-être aussi comment on peut être en contact, partager l'activité, pourquoi pas?
Alors, l'association, c'est l'association AFMV. C'est une association qui a été créée donc au Journal de la République française, hein, bien sûr. Pour nous contacter ou pour devenir bénévole, tout simplement pour entrer dans cette association, en cours de création, je tiens à le préciser, c'est une école aussi, eh bien, il y a un numéro de téléphone qui est le 06 99 99 83 32. Et puis bah, voilà, tout le monde est le bienvenu, il n'y a aucun souci. Hein. C'est une grande famille, la FMV, hein, et donc il n'y a aucun problème. Et donc voilà, en ce qui concerne notre association, le but, c'est de récupérer un maximum d'argent pour monter notre école de formation sur les métiers audiovisuels. Ce projet, il est très important à mes yeux. Cette école est très importante. Elle est importante puisqu'elle pourrait permettre de faire découvrir les métiers de l'audiovisuel. Les métiers comme, par exemple, comment devenir technicien, journaliste, animateur, pigiste, etc. Ce sont des métiers qui sont assez valorisants, on va dire, et puis qui sont mal connus, malheureusement. Puisqu'une personne qui écoute la radio ne sait pas tout le temps ce qui se passe derrière quand on fait une émission. Mais tout ça se travaille. C'est un travail phénoménal, un travail d'équipe. Et c'est très, très valorisant. Tout à fait. Ouais.
Merci Patrick Montfort et bonne chance.
Merci René de m'avoir accordé cette interview. Et puis, écoutez, il y a aussi le fait que l'on prépare notre soirée, qui est très importante à mes yeux, hein, qui va se dérouler à la salle Jean Nouin. Le but de cette soirée, eh bien, c'est de récupérer des fonds, tout simplement, et tous ces fonds vont servir à la création de notre école, qui, je l'espère, va voir le jour dans le Pas-de-Calais. Je tiens à le préciser, le Pas-de-Calais, ce n'est pas simplement les mines et le charbon, c'est autre chose. Le Pas-de-Calais, voilà, quoi, quelquefois, des gens nous disent, ouais, mais le Pas-de-Calais, c'est le chômage, c'est ceci, c'est cela. Non, il n'y a pas que ça dans le Pas-de-Calais, il y a aussi des valeurs qui sont beaucoup plus fondamentales que ça. Et vivre dans le Pas-de-Calais, c'est formidable. Je préfère vivre dans le Pas-de-Calais qu'à Paris, je vous assure, René.
Donc cette fameuse soirée, elle aura lieu, donc ça j'en ai à Lens, quand?
Elle a lieu le 28 septembre à la salle Jean Nouin. Elle débute à 20h et elle se termine à 1h30. Voilà.
Il faut s'inscrire?
Oui, il y a un numéro de téléphone sur les principales invitations que nous faisons, que nous proposons dans le commerce avec un flyer, bien sûr. Et nous avons aussi deux partenaires, je tiens à le signaler, qui sont le Brazza et Sonolence. Donc voilà, venez nombreux, venez nous soutenir pour tout simplement vivre aussi, danser sur les tubes des années 80. C'était la grande époque, les années 80. Voilà, ça. On ne pourra que mieux s'amuser et danser, mais c'est surtout c'est pas seulement danser, c'est surtout donc récupérer le maximum d'argent pour créer cette école qui, à mes yeux, est très importante. Tout simplement pour faire découvrir ces métiers qui sont assez mal connus. Par exemple, une personne qui a un cursus scolaire très compliqué, une personne qui est handicapée et qui malheureusement est rejetée par sa famille, ça arrive beaucoup. Voilà, je pense à toutes ces personnes qui sont, on va dire, un peu rejetées de la société. Eh ben non, il y a toujours une chance, hein. Cette chance, c'est la FMP, tout simplement. Voilà.